Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous sommes contents de nous retrouver les uns les autres et surtout de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'aimerais, pour la circonstance, parler d'une femme. Alors, ce n'est pas le nombre qui manque dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, mais j'ai à cœur de parler d'une femme dont les qualités exceptionnelles seront nous interpeller les uns les autres, seront nous enseigner ce matin les uns les autres. Et cette femme, c'est la femme vertueuse dont le portrait est détaillé dans le chapitre 31 du livre des Proverbes. Alors pour ce faire, je vous encourage à prendre lecture avec moi dans Proverbes chapitre 31, du verset 10 au verset 31. Nous lisons ensemble. Proverbes chapitre 31, versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. C'est donc un certain roi, le roi, pour être plus exact, le roi Lémuel, qui a pris le temps de décrire, j'ai envie de dire, toutes les qualités remarquables de la femme vertueuse. En effet, Lémuel a dit que cette femme, elle était, et je voudrais juste résumer pour vous, active et vaillante. C'était aussi une femme eh bien, qui était entreprenante et prévoyante, vigilante et soigneuse, sage et intelligente, pleine de bonté et de miséricorde à l'égard eh bien, des personnes étrangères. Et on le voit également, je résume bien sûr pour vous, attentionnée et bienveillante à l'égard des membres de sa famille. Certains exégètes et même commentateurs de la Bible pense que la femme vertueuse est ici un type même de l'Église de Jésus-Christ. Et je comprends bien, effectivement, que si le Seigneur a permis que nous ayons autant de détails sur les qualités de la femme vertueuse, c'est ni plus ni moins pour que justement l'Église de Jésus-Christ puisse pleinement s'en inspirer, pour que vous, comme moi-même, nous puissions recevoir encore à nouveau eh bien, des instructions, des enseignements pour notre propre vie chrétienne. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment, véritablement ce matin, que le Saint-Esprit puisse pleinement nous instruire les uns les autres au travers de cette femme. Vous savez, quand j'ai pris le temps de méditer ce chapitre 31 du livre des Proverbes, et concernant bien sûr la femme vertueuse, j'ai constaté qu'il y a au moins trois choses que cette femme ne craint pas, trois choses que cette femme ne redoute pas. Et j'aimerais vous les révéler, et afin qu'en retour, eh bien, ces choses puissent nous instruire les uns les autres. Alors, première chose que cette femme vertueuse ne craint pas, on le voit bien au travers de tout ce que nous venons de lire, c'est que la femme vertueuse, premièrement, ne craint pas le travail. Elle ne craint pas de travailler. Quand je lis et relis tout ce que cette femme accomplit comme travail, je me demande si même elle prend le temps de se reposer. J'ai même envie de dire que eh bien, cette femme, telle une machine de guerre, excusez-moi l'expression, eh bien, dont rien n'arrête, eh bien, est vaillante, plein de ferveur, plein de zèle au travail. Et cela eh bien, nous parle. Regardez, je voudrais juste tout à nouveau vous replonger un petit peu dans ce qu'on vient de lire. Par exemple, au verset 14, il nous est dit « Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. » Et je vois cette femme qui endosse plein de sacs sur ses épaules, eh bien aussi sur son dos. Elle a prévu tout eh bien pour pourvoir à tous les besoins de sa famille. Verset 15, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » C'est pour ça que j'ai dit, je me demande si cette femme dort. C'est indéniable, c'est sûr et certain. La femme vertueuse n'est en aucun cas une personne paresseuse. C'est d'ailleurs ce qui est précisé au verset 27 d'une manière très claire. La deuxième partie de ce verset, nous lisons entièrement le verset. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Et je trouve ça très beau. C'est une façon poétique de dire que cette femme, finalement, elle n'est pas paresseuse. Et de même, l'Église de Jésus-Christ ne doit en aucun cas manger le pain de paresse, mais mieux encore, elle doit manger un autre pain. Et vous savez quel pain ? Je veux faire mention, le pain de l'activité. Il y a un passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 12 et le verset 27, qui nous exprime la chose suivante. Il nous est dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais par contre, le précieux trésor d'un homme, c'est quoi ? C'est l'activité. Et je peux le dire et je le redirai eh bien, autant de fois que c'est nécessaire. Pendant le temps de confinement, je bénis le Seigneur parce que l'église d'Istres eh bien, n'a pas été oisive, elle n'a pas été inactive. Au contraire, elle a pourvu à tellement, tellement de besoins. Je sais que plusieurs eh bien, colis alimentaires ont été distribués. On a essayé, on cherchait à pourvoir aux besoins eh bien, des uns et des autres. Et puis aussi, parallèlement à cela, toutes les fois, on a pu se réunir en famille, avec les enfants, avec les conjoints, et à prier dans la maison, au beau milieu de ce confinement qui est maintenant derrière nous. Eh bien, nous avons pu ensemble chercher la face de Dieu, ouvrir la parole de Dieu, et surtout prier, intercéder. Et tout ça, c'est un travail pour Dieu. C'est tellement important, c'est tellement nécessaire. Toutes les fois, même que nous nous sommes réunis au travers des temps de prière qu'on a organisés, qu'on continue encore à organiser au travers des visioconférences, tout cela, Dieu le voit. Et quelque part, toutes les prières que nous avons formulées eh bien, ont servi à pouvoir contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. L'Église de Jésus-Christ est appelée à travailler avec zèle, à travailler pour le royaume de Dieu. Et Paul, d'ailleurs, a dit aux chrétiens de Rome, cette exhortation, Romains chapitre 12, verset 11, on va le lire ensemble, je vous laisse le temps de le chercher. Romains 12, verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et en matière de travail, justement, en parlant de la femme vertueuse, eh bien, je note aussi que cette femme eh bien, accomplit son travail avec joie. On le lit au verset 13, regardez avec moi. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main, comment ? D'une main joyeuse. Elle travaille avec une main joyeuse parce qu'elle aime son travail. Elle le fait parce qu'elle sait que son travail va contribuer à son bien-être, mais aussi au bien-être de toute sa famille. Et d'ailleurs, elle l'exprime au verset 18, Proverbes chapitre 31, verset 18, il nous est dit, « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. » Elle sent que ce qu'elle gagne est bon pour elle, mais bon également pour le reste de sa famille. Et sa lampe, par conséquent, ne s'éteint point pendant la nuit. Elle travaille d'une main joyeuse parce qu'elle le fait avec de bons sentiments. Elle le fait parce qu'elle aime sa famille. Elle le fait parce qu'elle aime eh bien, son conjoint. Elle aime ses enfants. Et il y a aussi là pour nous un enseignement. Pour nous, Église de Jésus-Christ, nous avons aussi besoin de servir Dieu avec beaucoup de joie dans le cœur. Nous avons besoin de le faire avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans Psaume 100, verset 2, la vérité suivante, très courte, mais qui en dit long. Servez l'Éternel avec joie. Venez aller avec allégresse en sa présence. Et c'est vrai que pour nous chrétiens, nous servons le Seigneur avec joie parce que nous réalisons que c'est vraiment un honneur, une grâce, un privilège de pouvoir travailler pour Dieu. Nous servons Dieu avec joie parce que finalement nous l'aimons et parce que aussi en retour, il nous a aimés d'un amour éternel et continue à nous aimer d'un amour éternel. C'est ça qui est important. Nous le savons tous, la Bible nous le rappelle à maintes reprises. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la croix afin que nous puissions être sauvés, délivrés de nos péchés. Jésus lui-même a travaillé, excusez-moi l'expression, corps et âme, afin eh bien, que nous soyons sauvés. Il a travaillé au prix de sa vie, lui le prince de la vie, il a livré sa vie sur cette croix. Et tout cela en retour ne peut que nous inciter à travailler non seulement avec joie, mais aussi avec beaucoup d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Une petite remarque que je pourrais faire, c'est que Dieu est très attentif à la manière dont nous travaillons. Vous savez, presque à la rigueur, ce qu'on peut produire va rester même secondaire. Parce que de toute façon, ce que nous pouvons produire au travers de notre travail, eh bien, c'est Dieu qui le fait fructifier. Mais par contre, le Seigneur va regarder de quelle manière nous travaillons pour lui. Il va regarder notre cœur, on le sait, la Bible nous dit, il regarde notre cœur, il regarde nos sentiments, il regarde également nos émotions, mais aussi eh bien, nos motivations. Et je comprends mieux eh bien, ce passage de l'apôtre Paul quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, il dit « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est vrai, bientôt le Seigneur reviendra nous prendre et la Bible nous parle d'un tribunal, le tribunal de Christ, non pas pour être jugé, mais surtout pour recevoir les récompenses qui seront fonction de notre travail. C'est ça qui est important. Mais là où je voudrais vous interpeller au travers de ce verset 58, il nous est dit « Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». C'est quoi travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Si ce n'est eh bien, de pouvoir travailler à l'œuvre du Seigneur avec joie, avec zèle et surtout avec amour dans le cœur. Que Dieu nous aide à nous appliquer dans notre travail, car il nous voit, il nous regarde. Et la Bible nous dit qu'il y aura une récompense pour chacune de nos œuvres. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà un premier point que je voulais partager avec vous. La femme vertueuse, donc, ne craint pas le travail. Il y a une deuxième chose dont la femme vertueuse ne craint pas. Et nous la trouvons au verset 21. Elle ne craint pas, Proverbe chapitre 31, verset 21, nous lisons, « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de quoi ? Est vêtue de cramoisi. » La femme vertueuse ne craint pas le froid. Et je vais m'expliquer. La femme vertueuse ne se berce pas d'illusions. Elle sait que la vie est comme rythmée par différentes saisons. Et justement, dans le verset que nous avons lu, il n'est fait mention de la neige. Et la neige nous parle de quoi ? Elle nous parle de la saison hivernale. Elle nous parle de la saison froide. Et je transpose de la même manière dans nos vies chrétiennes. Il peut se faire aussi que nous connaissions des saisons hivernales. Excusez-moi l'expression. Oui, des saisons froides. C'est-à-dire des moments difficiles, des moments d'épreuve qui nous font même froid dans le dos. Des moments très difficiles que nous devons traverser. Mais nous savons que même dans ces moments, le Seigneur est avec nous. Même d'une manière générale, on pourrait même parler de l'hiver spirituel avec toute sa froideur qui, ni plus ni moins, est en train de s'installer et même de régner sur cette terre. Jésus a déjà averti ses disciples et leur a dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on le constate bien autour de nous. Il y a par-ci, par-là, l'iniquité, l'injustice, le mal qui n'a de cesse de s'accroître. Et parallèlement à cela, malheureusement, l'amour d'un grand nombre de chrétiens, parce qu'il est fait mention des chrétiens, eh bien, constate que leur amour eh bien, diminue de plus en plus. L'amour, leur amour se refroidit. Et il n'en est pas Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église doit conserver en son sein le feu de son premier amour. Jésus désire que nous ne craignions pas non plus l'hiver spirituel qui s'installe, j'ai envie de dire, qui progresse donc dans ce monde. Jésus désire que nous ressemblions plutôt à la femme vertueuse qui, justement, pour se prémunir de l'hiver, a prévu pour elle, mais aussi pour tous les membres de sa maison, des vêtements cramoisis. Vous avez entendu ? Des vêtements cramoisis. Alors imaginez-vous cette femme qui, voyant l'hiver qui arrive, va chercher quelque part dans quelques placards des manteaux bien chauds avec doublure et tout cela pour en revêtir tous les membres de sa famille. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est au sujet de la couleur de ces mêmes vêtements dont je fais mention. En effet, il est fait mention de vêtements cramoisis. Et le cramoisi, vous savez que c'est un colorant de couleur rouge foncé qui d'ailleurs, à l'époque, avait été utilisé par les Hébreux dans le désert. Vous savez, lorsqu'il fallait construire le tabernacle et pour décorer toutes les portes conçues avec un voile, il était fait mention du fil cramoisi. Alors, il y avait un voile pour la porte qui donnait accès au parvis et ce voile était conçu en fil cramoisi, mais il y avait aussi un voile pour l'entrée du lieu saint et même du lieu très saint. Et tous ces voiles étaient également conçus avec du fil cramoisi. C'est intéressant. Il y avait finalement du fil cramoisi partout. Même sur les vêtements du souverain sacrificateur, il y avait du fil cramoisi. C'est aussi par un cordon de fil cramoisi que Rahab et même toute sa famille furent épargnés de la destruction de Jéricho. Et que dire également concernant les lépreux, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'un lépreux était guéri de sa lèpre, il fallait qu'il puisse se soumettre à un certain rituel, un rituel de purification, et ce rituel de purification réclamait quelque part l'emploi du cramoisi. Tout cela, tous ces exemples sont là pour nous interpeller concernant cette couleur rouge sombre. Le cramoisi nous parle finalement du sang précieux de Jésus qui a coulé pour nous sur le bois infâme de la croix. Le cramoisi nous parle de l'œuvre rédemptrice que Jésus accomplit sur la croix afin de nous délivrer. Et quelque part, le vêtement couleur cramoisi dont la femme vertueuse revêtait tous les membres de sa famille est pour nous, écoutez bien, une belle image du vêtement du salut dont Dieu revêt ceux et celles qui se repentent de leurs péchés, mais aussi ceux et celles qui se confient en lui. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus vous revêt de ce manteau du salut, vous êtes dans la joie, vous êtes sauvé et vous avez une merveilleuse espérance. Et vous pouvez vous exprimer comme l'a fait le prophète Ésaïe. On peut le lire, Ésaïe chapitre 61 et le verset 10, regardez ce qu'il est écrit. Il dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Alors je te pose la question, je me permets même de te tutoyer. As-tu laissé Dieu te revêtir de ce manteau du salut? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Et pour nous chrétiens, n'ayons de cesse de pouvoir intercéder et prier pour tous ceux, même dans notre famille, qui peut-être seraient loin de Dieu et qui ont besoin de la grâce de Dieu et qui ont besoin d'être touchés par Dieu et qui ont besoin d'être sauvés par Dieu, afin que Dieu en retour également puisse les revêtir du vêtement de la grâce, du vêtement de sa bonté, finalement, du vêtement cramoisi. Que Dieu soit béni. Voilà donc un deuxième point. La femme vertueuse, elle ne craint pas le froid parce qu'elle a pourvu, ses vêtements bien épais, ses vêtements cramoisis, pour se prémunir du froid. Je voudrais terminer en relevant une dernière chose, que la femme vertueuse ne craint pas. La femme vertueuse ne craint pas l'avenir. Et on le découvre, en tout cas c'est sous-entendu au travers du verset 25, Proverbes chapitre 31 et le verset 25. On lit ensemble, Proverbes 31, verset 25, parlant de la femme vertueuse, il nous est dit « Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. D'autres versions vont exprimer cette deuxième partie de ce verset 25 de la manière suivante. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle pense à l'avenir en riant. Mais on est forcé de constater qu'aujourd'hui, les gens de ce monde ne rient pas du tout de l'avenir. Bien au contraire, les gens de ce monde sont de plus en plus pessimistes, j'ai envie de dire angoissés quant à l'avenir. L'avenir est comme incertain pour eux. Et je vais même plus loin, ils s'inquiètent pour leur devenir et celui de leur propre enfant. Mais tout comme la femme vertueuse, pour nous chrétiens, c'est tout à fait différent. Nous accueillons l'avenir avec sérénité. Mieux encore, et j'ose le dire, nous rions, tout comme la femme vertueuse, nous rions de l'avenir. Pourquoi je dis cela ? Eh bien parce que tout simplement notre avenir et notre devenir est entièrement dans les mains de notre Père céleste. Nous sourions en pensant à l'avenir parce que Dieu a de merveilleux projets pour chacune de nos vies. Vous connaissez ce passage, Jérémie chapitre 29 verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et notre avenir, et même notre espérance, va bien au-delà de notre existence terrestre. La Bible, alléluia, nous révèle qu'une maison là-haut nous attend. Vous savez, le Seigneur, il nous a sauvés, que Dieu soit béni, il nous a pardonné nos péchés, mais mieux encore, il nous a accordé la vie éternelle. Et voyez-vous, ce qui est le comble de l'amour de Dieu, c'est que Dieu a prévu aussi pour nous une maison merveilleuse pour chacune de nos vies. Et nous savons que, après notre mort, si Jésus-Christ n'est pas revenu, nous demeurerons éternellement dans son ciel de gloire. Ça, c'est l'espérance et c'est le projet que Dieu a formé pour ceux et celles qui se confient en lui, que Dieu soit béni. Et puis, on sourit en pensant à l'avenir parce que nous avons aussi confiance à Dieu pour l'instant présent aussi. Parce que toutes les promesses de la parole de Dieu sont pour nous. Et je vous en cite juste deux parmi tant d'autres. Ésaïe chapitre 46, versets 3 et 4, par exemple. Ésaïe chapitre 46, versets 3 et 4. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. » Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, voilà ce que Dieu dit et voilà aussi ce qu'il promet à ses enfants. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Mes amis, si avec ça on ne peut pas dormir sous nos deux oreilles, je ne sais pas. Un autre passage, Ésaïe chapitre 43, verset 2, quelques chapitres auparavant, il nous est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Alors, avec tous ces passages, vous comprenez maintenant comment le croyant est en mesure, le croyant, je précise, qui se confie en Dieu, est en mesure d'exprimer le psaume 112 et le verset 7 qui dit « Le juste ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Oui, nous avons matière à pouvoir sourire quant au présent, mais également plus que jamais quant à l'avenir, parce que Dieu lui-même a déjà tout tracé pour nous et nous sommes dans la paix. Tant que nos regards resteront fixés sur Jésus. Et tant que notre cœur sera attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, alors rien ni personne ne pourra nous nuire, mes amis. Et je m'adresse là aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Chaque jour qui passe nous rapprochera immanquablement du retour glorieux de notre Seigneur Jésus qui viendra nous chercher. Faut-il aller plus loin ? Déjà avec ces trois choses dont la femme vertueuse ne craint pas. Elle nous enseigne. Et je voudrais dire en conclusion que la femme vertueuse nous a juste rappelé trois leçons qu'il nous faut retenir. La première leçon nous encourage à ne pas craindre de travailler tant avec joie qu'avec zèle, mais surtout avec amour pour notre Dieu. Pourquoi ? Parce que on l'a vu ensemble, c'est un honneur de pouvoir travailler pour Dieu. Mais aussi parce que la Bible nous dit que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Au contraire, il nous est fait mention de récompense. Dieu nous récompensera. Tous ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme la splendeur du ciel. Ils brilleront comme les étoiles. C'est pas beau ça ? Quel programme ? La deuxième leçon que la femme vertueuse nous a rappelée, eh bien, c'est de ne pas craindre, excusez-moi l'expression, la froideur des épreuves. Et peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles. Ne crains pas, parce que le Seigneur est avec toi. Et puis d'une manière générale, nous n'avons pas à craindre l'hiver spirituel qui, il faut le dire, règne sur la terre entière. Nous n'avons pas à craindre ces choses parce que Dieu nous a déjà revêtus de ce manteau de délivrance et ce manteau de salut qui nous donne à pouvoir rester, alléluia, fermement attachés à notre Seigneur et inébranlable, bien sûr, sa personne. Et enfin, la femme vertueuse nous a aussi enseigné de ne pas craindre l'avenir, car Dieu fidèle et bon sera toujours à nos côtés et jamais il ne nous abandonnera. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide à vivre ces choses, qu'il nous fasse aussi pleinement la grâce de persévérer dans ses voies jusqu'à son prochain retour. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à bientôt.